Radio Okapi. Oh, Okapi.
Le rendez-vous mondial de tous les 4 ans de la planète foot démarre ce dimanche 20 novembre au Qatar. 32 nations du monde s'affrontent pour tenter de remporter les prestigieux trophées. L'Afrique, avec ses 5 représentants, tenteront de faire mieux qu'en 2018. Les nouveaux mandataires appellent à faire preuve de bonne gouvernance et de professionnalisme. C'est l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a fait savoir lors du Conseil des ministres de vendredi dernier. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le président de la jeunesse de la commune de Bungulu dans la ville de Beni. Il apporte un éclairage sur les dispositifs mis en place par la police en collaboration avec la population dans la ville où un calme apparent règne ces derniers temps dans cette commune chaude. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le 22e mondial de football démarre aujourd'hui dimanche au Qatar. Du 20 novembre au 18 décembre 2022, 32 nations vont s'affronter pendant un mois pour remporter le prestigieux trophée tant convoité de la planète foot. Enoch Matondo nous parle des favoris et des outsiders de cette édition.
Le monde du football va vibrer à partir de ce dimanche au 20 novembre 2022, la fête du football. 32 clubs pour succéder à la France, tenante du titre qui vient cette édition pour rempiler des stades. De modernes climatisés sont construits pour faire face à une forte chaleur dans le pays. Le Qatar y a sa première participation en Coupe du Monde. Les favoris de cette compétition sont la France avec 2 trophées, le Brésil 5 titres, l'Argentine 2 titres, enfin l'Angleterre avec 2 autres titres. Par contre, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique viennent avec une casquette de outsider. Le continent africain se prépare avec 5 participants, à savoir le Sénégal qui évoluera sans Sadio Mané, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie et le Maroc. La République démocratique du Congo est indirectement représentée par son ambassadeur qui est sélectionné avec l'équipe de France, Axel Disasi, qui a d'ailleurs été sélectionné avec les U23 des Léopards de la RDC en 2019. Natif de Paris, Axel Disasi a vu ses parents naître à Kinshasa, précisément dans la commune de Barumbu. Un grand nombre de personnes se sont donné rendez-vous au Qatar pour cette Coupe du Monde qui attire également plusieurs critiques, surtout en Europe. C'est donc la deuxième Coupe du Monde en terre asiatique après l'organisation collégiale entre le Japon et la Corée, mais également la première Coupe du Monde à être organisée dans un pays arabe.
En effet, l'Afrique sera représentée par 5 nations. Le Sénégal jouera sans Sadio Mané, blessé quelques jours seulement avant cette édition. Freddy Touli, analyste sportif et journaliste sportif, se pose la question de savoir si les nations africaines vont faire des exploits comme ce fut le cas dans des éditions où elles ont atteint le deuxième tour. Suivez Freddy Touli au micro de Nok Matondo.
Que les représentants africains, il faut compter avec ces 5 nations. Il y a le Sénégal, les champions d'Afrique en titre, il y a le Ghana, il y a le Cameroun avec les records de participation par rapport aux nations africaines, avec 8 participations. Il y a la Tunisie et le Maroc qui talonnent avec 6 participations, le Ghana 4 et le Sénégal 3 participations. En 2018, il n'y avait pas de représentants au deuxième tour de la compétition. Mais en 2014, au Brésil, il y avait l'Algérie en 8e de finale éliminée par les vainqueurs de la compétition, l'Allemagne. Est-ce que cette fois-ci, les Africains auront les arguments pour se hisser au deuxième tour de la compétition. Nous aurons la réponse à l'issue de cette Coupe du Monde. Mais dommage, il y a trop de blessés dans cette Coupe du Monde. Le Sénégal va évoluer sans son meilleur joueur, Sadio Mané, le meilleur joueur africain. Donc c'est un coup dur pour Aliou Cissé. Nous espérons que cette Coupe du Monde dans les terres arabes pourra peut-être apporter un peu de souffle. Pourquoi pas rééditer l'exploit de 2010 où l'Afrique avait un pas de la demi-finale où les Ghana étaient éliminés en quart de finale.
La France aussi évoluera sans son ballon d'or, Karim Benzema. Retenez qu'en match d'ouverture ce dimanche, le Qatar, pays organisateur, sera aux prises avec l'Équateur. Coup d'envoi 17h, heure de Kinshasa. Tous les mandataires publics désignés à différents postes doivent avoir constamment, dans l'exercice de leurs fonctions, une conduite managériale qui repose sur la bonne gouvernance ainsi qu'un comportement hautement professionnel dans l'exercice de leurs fonctions. Cet appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors du Conseil des ministres le vendredi dernier ici à Kinshasa, Pierre Lamegi.
Dans les comptes rendus du Conseil des ministres fait par la ministre de la Culture, Félix Tshisekedi rappelle que chacune de ces entreprises, quel que soit son objet social, sa taille et sa localisation géographique, est appelée télé a joué un rôle crucial dans le développement socio-économique du pays. Ainsi, attend-il de tous les mandataires un comportement hautement professionnel dans l'exercice de leurs fonctions, dont les résultats du travail quotidien devront se manifester par l'amélioration de la qualité des prestations et des services rendus aux usagers, par la réalisation de leur objet social, le respect des obligations sociales envers les travailleurs, la transformation réelle du potentiel d'exploitation et des productions des actifs de tout genre, l'atteinte de seuils de rentabilité afin d'avoir des marges de trésorerie positives en vue d'accroître leurs actifs et leurs capacités contributives au budget de l'État. Pour le président de la République, les insertions publicitaires et les interventions médiatiques intempestives des mandataires publics ne constituent en aucun cas un gage des performances managériales. Pour Félix Tshisekedi, ce sont plutôt des pratiques de gestion rationnelle qui produiront des résultats positifs et probants. Par ailleurs, selon ce même compte rendu, la ministre d'État, ministre du portefeuille et les ministres sectoriels qui ont sous tutelle des établissements et des services publics sont invités à éviter les entraves dans l'exercice de fonctions de mandataire telles que relevées lors de la communication du président de la République lors du Conseil des ministres du 19 août 2022.
Autre nouvelle, le ciel du Maniema désormais desservi par une nouvelle compagnie aérienne. HA Business Airlines, c'est son nom, a fait voler son premier appareil hier samedi à partir de l'aéroport national de Kindu. L'arrivée de cette compagnie constitue un réel motif de satisfaction pour la population de cette partie du pays, venue nombreuse assister au vol inaugural. Le ministre des Transports a pris place à bord de l'aéronef. Reportage Florence Kizalunga.
C'était à 12h39 local que l'appareil de HA Business Airlines a atterri à l'aéroport de Kindu. Erre, son directeur général, explique la raison d'être de sa compagnie.
Nous avons écouté les difficultés, les pleurs des enfants de Kindu qui ont seulement un vol par semaine et parfois des vols annulés. Nous nous sommes dit, nous allons faire quelque chose pour désenclaver Kindu. C'est ainsi que nous sommes arrivés en cellule avec ce Boeing 737-500 de nouvelle génération pour pouvoir faciliter le déplacement.
Le ministre des Transports, Charibin Okende, encourage l'investissement privé.
AB Airlines est une initiative privée. Le président de la République appelle tous les Congolais de bonne volonté et qui ont des capacités d'investir dans leur pays de pouvoir le faire. Nous ne devons pas attendre le développement du Congo à partir des expatriés qui viennent investir dans notre pays.
Pour sa part, la population accueille la nouvelle compagnie aérienne à bras ouverts.
Nous sommes très réjouis de la présence de cette nouvelle compagnie aérienne AB Airlines, parce qu'elle va desservir la province du Maniema. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est voir l'annulation des vols chaque fois comme l'année est le cas avec les compagnies précédentes.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis mettre en place un programme de développement de la RDC en tenant compte des spécificités de chaque province, renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, sont là, entre autres, des préalables pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. C'est ce que pense le parti politique Convention démocratique du peuple CODEP, cher à Cléopas Kamita Tumasamba. Denis Tshibombi, président de ce parti, l'a déclaré à la clôture du congrès national de ce parti ce samedi 19 novembre ici à Kinshasa. Écoutez. C'est plutôt Denis Tshibombi au micro de Paul Matendo.
Le Congo est appelé à se développer et le Congo doit se développer. Mais pour que ce pays se développe, il y a un certain nombre de préalables. Et parmi ces préalables, nous pensons qu'il est important d'assurer le renforcement de l'efficacité de l'État et la restauration de son autorité sur l'ensemble du territoire national. Il est également important de mettre en place un ambitieux programme de développement qui devra être soutenu par des programmes provinciaux de développement qui tiennent compte des spécificités de chaque province. La situation de notre pays appelle la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de réformes structurelles. Il est important qu'un certain nombre de politiques publiques soient mises en place pour assurer le développement de notre pays et l'amélioration du bien-être de la population.
En Boujimaï au Kassai oriental, la semaine qui s'achève a été caractérisée par les manifestations de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au président Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs couches de la population regroupées au sein des organisations sont descendues dans la rue pour faire entendre leur voix. Esther Ndalafina nous en parle.
La semaine s'achève avec la marche de la nouvelle société civile section du Kassai oriental. Les associations des jeunes et des femmes étaient ce samedi dans les rues ville de Mbujimayi pour manifester leur soutien au FRDC. Vendredi, les partis politiques membres de l'Union Sacrée, avec à leur tête le coordonnateur provincial Kalédo, ne sont pas restés indifférents face à l'agression du Rwanda contre la RDC. Jeudi, c'était le tour des étudiants de 16 institutions supérieures et universitaires de la place qui étaient dans les rues depuis le rond-point de l'étoile dans la commune de Dibindi jusqu'au gouvernorat de province dans la commune de Djoulou pour demander au chef de l'État de disponibiliser les armes à remettre aux jeunes volontaires qui veulent sauver l'intégrité nationale. Le mercredi, l'UDPS et les associations alliées ont marché sur une distance de près de 4 km pour déposer leur mémorandum à l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental dans lequel ils s'insurgent contre l'agression du Rwanda. Les autorités traditionnelles et coutumières du Grand Kasaï étaient également dans les rues ainsi que l'association des jeunes dénommée Banambujimayi. Plusieurs appels à la mobilisation sont chaque jour diffusés sur les médias de Mbujimayi pour éveiller la conscience de la population et la mobiliser contre cette agression rwandaise. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, une quarantaine de femmes et filles de Bounia ayant œuvré dans différents secteurs sociaux ont été primées vendredi par les autorités de la province et la MONUSCO. C'est à l'occasion de la célébration du 22e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité qui est célébrée ce vendredi. Il s'agit des femmes qui se sont distinguées entre autres dans le secteur du dialogue communautaire, celui de l'encadrement des enfants ou encore de sensibilisation des groupes armés pour les retours de la paix. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
Parmi ces femmes figure Georgine Lové, la coordinatrice de l'ONG FADEM, Femmes en action pour le développement multisectoriel. La trentaine révolue, elle a reçu un prix spécial pour avoir joué un rôle dans la libération au mois d'avril 2022 des membres de la Task Force pour la paix envoyée par le chef de l'État. Ils avaient été pris en otage par la milice Codeco avant que ces derniers ne signent l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités dans les territoires du Djougou. Georgine Lové.
Oui, j'ai pris beaucoup de risques, mais j'étais déterminée. Tout ce que nous avons fait, la finalité, on les a accompagnés des accords qui étaient signés ici à Bounia. Moi, en tant que femme, je suis fière de continuer dans cette thématique-là.
Pour la coordination provinciale de la résolution 1325, c'est une manière symbolique de témoigner de la gratitude à l'endroit de ces femmes et filles qui militent pour le retour d'une paix durable dans la région. Jean-Marc Mazio, le secrétaire permanent de cette organisation en Ituri.
En fait, c'est ça la résolution 1325. Donc, on veut que la femme participe, on veut que la femme soit au centre de tout. Dans la recherche de paix, la femme participe aux instances de prise de décision.
À cette occasion, une feuille de route a été élaborée par les participants dans le cadre des actions futures à mener. C'est dans le but de rendre effective cette résolution dans la province de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki.
Et puis, commémoration de la journée internationale de l'enfance, c'est chaque 20 novembre. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, vient de lancer une série d'activités ici à Kinshasa. La première est la marche de santé qui a réuni hier samedi une cinquantaine d'enfants de la capitale et d'autres partenaires de l'UNICEF, dont la division provinciale de genre, famille et enfants. Partie de la place des évolués, elle a connu son point de chute à Itex Africa en passant par le boulevard Tchaki. Cette marche est une sensibilisation à la santé, au sport et aussi un plaidoyer. Les enfants sont émus d'y avoir participé, n'est-ce pas, Fulbert Balolagué?
Exactement, car cette année, l'UNICEF a mis en place une stratégie de communication et de plaidoyer reliant l'organisation, les sports et l'enfance. Jean-Poncien Chibamba, coordonnateur national du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants, explique.
Pour cette année, à l'international, on avait misé de faire la célébration sur l'inclusion pour chaque enfant. Et donc, en RDC, on a travaillé à la promotion du droit de l'enfant à travers le sport. Le slogan qui a été retenu, un enfant, un droit, un sport. C'est là pour pouvoir voir que le sport, c'est pas seulement une gymnastique, mais c'est aussi un droit pour chaque enfant.
Tel un baptême, Consolation Atta a fait sa première marche à pied de quelques kilomètres et l'en sort heureuse.
C'est ma première fois de faire une marche, de faire des kilomètres en train de marcher. Je suis émue de joie et puis je me sens bien.
Ces autres enfants ont trouvé aussi du plaisir à marcher pour les droits de chaque enfant.
Je suis émue de joie de participer à cette marche pour aider à d'autres enfants d'imaginer un peu la journée du 20 novembre.
C'était bien, on s'est exercé, on s'est un peu fatigué, mais c'était bien au final. On est en forme.
Un peu fatigué vu qu'on a marché pendant longtemps et qu'il fait chaud, mais sinon ça va.
Jusqu'au 1er décembre, l'UNICEF prévoit d'autres activités.
Actualité internationale.
À l'issue de la plénière et des longs débats, les délégations présentes à la COP27 ont adopté ce dimanche matin un accord final appelant à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre et réaffirmant l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré Celsius. La résolution finale de cette COP27 tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte avait été critiquée par certaines parties comme n'étant pas assez ambitieuse, mais elle a été adoptée par consensus après une dernière journée marathon des négociations. Série, mentionne l'AFP. Et puis, un peu plus de 400 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en Guinée équatoriale, pays pétrolier d'Afrique centrale, pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales. Pour la présidentielle, Théodore Obiang-Nguema, au pouvoir depuis 43 ans, brigue un sixième mandat. Il était déjà le record du monde de longévité pour un chef d'État hors monarchie encore en exercice.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le président de la jeunesse de la commune de Bungulu en ville de Beni. Dans cet entretien, il apporte son analyse sur ce calme apparent observé particulièrement dans cette commune chaude de la ville. Il met l'accent sur la dimension sécuritaire, mais surtout, il apporte un éclairage sur les dispositifs mis en place par la police en collaboration avec la population. Calvin Maliro s'entretient ici avec Marc Marofimbo. Suivez.
Monsieur Calvin Maliro, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Un calme apparent s'est fait observer dans la ville de Beni et même dans les quartiers jugés chauds de la ville, malgré les cas isolés. Comment expliquez-vous ce phénomène?
Depuis un certain moment, on était en train d'enregistrer beaucoup de cas d'incursion, de menaces. Et aujourd'hui, il y a quand même un calme apparent tel que vous venez de le soulever. En fait, ça, c'est le résultat de la collaboration entre la police et la population. Et il reste encore beaucoup à faire parce que les cas isolés continuent à s'observer. Et donc, nous saluons cet effort et nous encourageons les autorités de la PNC à pouvoir multiplier ou remonter les stratégies pour que la ville soit totalement calme et que chaque citoyen vaque paisiblement à ses occupations comme c'était le cas dans les jours passés.
Le déficit s'est fait observer sur le plan sécuritaire. Vous pensez quel type de recommandations remettre à la police?
Les recommandations que je peux formuler à la police, d'abord, c'est lui demander à pouvoir conscientiser ces éléments à Beni parce qu'il s'est fait remarquer que l'effectif au sein de la police pendant la patrouille est vraiment insuffisant et cet effectif n'arrive pas à couvrir totalement la ville de Beni. Et donc nous demandons au commandant et tous les responsables de pouvoir mobiliser leurs hommes pour que la ville soit totalement couverte par les éléments parce que nous sommes dans une période sensible à l'insécurité. Et la deuxième recommandation, c'est toujours en rapport avec l'effectif. Il faut que les autorités, la police, accélèrent le processus de recrutement. Parce que d'une manière générale, il y a vraiment carence d'hommes. Alors que la ville, au niveau interne, il y a beaucoup de difficultés. Mais aussi, il y a des menaces au niveau du territoire et au niveau de la périphérie de la ville. Donc, il faut que la police soit à même de pouvoir travailler efficacement pour protéger la population et ses biens. La troisième recommandation, c'est de demander aux autorités de la police de pouvoir intensifier la collaboration, multiplier les contacts avec la population, comprendre les problèmes de la base. Parce qu'il y a quelques brebis galaises qui sont en train de s'illustrer dans de mauvais comportements. À ce que je sache, à leur niveau, il y a aussi des punitions que les autorités sont en train d'infliger à ces éléments également. Donc, on voulait que cela se fasse aux vies et aussi de tout le monde pour décourager même ceux qui auront cette mauvaise habitude de pouvoir tracasser la paisible population parce qu'on enregistre du jour le jour, on est en train de ravir la population, les téléphones, argent et quelques biens de valeur une fois vous rencontrez avec ces indisciplinés. Et donc, si on est tracassé la nuit, eh bien, le matin, on peut avoir la chance de retrouver ce qui lui a été extorqué.
La population aussi a sa part, et surtout la jeunesse. Ici, on cible plus les jeunes. Vous pensez quelle est la part de la jeunesse dans la stabilisation et la sécurisation de la ville?
En fait, la jeunesse d'une manière particulière, elle s'organise pour accompagner les services. Et si vous sillonnez les quartiers, il y a les jeunes qui se sacrifient la nuit. Ils sillonnent les quartiers en train de chercher les bandits qui se cachent dans des coins isolés. Et ceux qui sont en train d'être attrapés, ils sont en train d'être mis à la disposition des services de sécurité pour que les services soient au courant de ce qui se passe pour démanteler les groupes de criminels qui sont en train de déranger la paisible population en commune de Bungoul d'une manière particulière et en ville de Beni. Donc c'est une façon pour la population d'accompagner les services. Et aussi au-delà de ça, il y a des alertes qui se font. Nous demandons également aux autorités de pouvoir les capitaliser parce qu'il y a par exemple les maisons de tolérance, les fumoirs qui jusqu'à présent ne sont pas encore démantelés, alors que selon certaines informations, il se fait que dans ces endroits-là, il se retrouverait des gens nuisibles à la commune. Donc, nous leur demandons de ne pas minimiser les alertes venant de la population. Donc, les maisons de tolérance, une fois identifiées, ces maisons ne sont pas en train d'être démantelées ou décourager cette pratique. Et une fois on est tombé sur quelqu'un dans cet endroit, aujourd'hui, il est au niveau des services et demain, on le voit encore sur la route. Et cela crée des conflits entre celui qui a apporté l'information et celui qui a été accusé. Parce que les chanvres, je sais pas, les boissons prohibées, doivent être mises à l'écart vis-à-vis de la communauté parce que ça amène les gens à se lancer dans des actes qui ne sont pas bons pour la communauté.
Calme, Malion, nous vous disons merci.
Je vous remercie également, messieurs les journalistes.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Polydor Basunga. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Piro et la Meji et la supervision de Pélé Kipela Mundo. Merci aussi à vous pour nous avoir suivis.